Il est devenu un sujet d'actualité, une nécessité, un élément incontournable. Vous avez sûrement entendu parler des ODD, Objectifs de Développement Durable. D'ailleurs, 193 pays se sont fixés d'atteindre 17 objectifs d'ici 2030. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est sur cette dynamique à la fois environnementale et économique. Notion qui définit le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Quel impact géopolitique, stratégique, économique et même social le développement durable a sur notre quotidien et sur l'évolution du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
Parmi les régions du monde considérées comme les plus exposées aux dégradations environnementales, l'Afrique apparaît de nos jours comme l'une des plus vulnérables. Cette vulnérabilité est à la fois fonction du système climatique complexe du continent et de l'interaction de ces systèmes avec les défis socio-économiques qui le caractérisent actuellement. Un continent particulièrement sensible aux dégradations environnementales, parmi les régions du monde considérées les plus exposées aux dégradations également, l'Afrique aujourd'hui en fait partie. Cette vulnérabilité, comme j'ai dit, à la fois du système climatique complexe et autres, montre aujourd'hui les besoins en exerçant également des pressions croissantes, tout azimut, dans des domaines tels que l'eau, les forêts, les terres et son corollaire, le partage foncier, l'agriculture ou bien encore la biodiversité. Ces pressions sont amplifiées depuis plus d'une vingtaine d'années par un dérèglement climatique dont les manifestations y sont de plus en plus intenses. S'il est rare, bien évidemment, que les problèmes environnementaux soient directement à l'origine d'une situation de crise, l'histoire récente nous prouve que l'environnement en constitue néanmoins un facteur aggravant. Et pour mieux appréhender les défis environnementaux auxquels est confrontée l'Afrique, nous sommes avec Marc Ona, secrétaire exécutif de Brainforest et troisième vice-président du Sénat de la transition au Gabon. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, monsieur Ona, tout de suite, alors, quels sont les effets du changement climatique sur le continent africain?
Vous savez, comme vous l'avez si bien dit, le continent africain est très complexe et les défis environnementaux et climatiques sont énormes en fonction des régions. Vous avez l'Afrique désertique, hein, l'Afrique du Nord, vous avez l'Afrique forestière et vous avez cette Afrique qui est partagée entre le désert, la forêt, les savanes et les plaines. Et c'est un continent très peuplé, plus d'une cinquantaine de pays, avec une population jeune, une population très active, et surtout des situations climatiques qui sont très défavorables par rapport à toutes ces personnes. Et quand on a décrit ce continent, on peut maintenant ouvrir des tiroirs pour voir exactement quels sont les défis climatiques que rencontrent les populations de la forêt africaine. Le premier challenge pour les forestiers, c'est d'abord de préserver cet écosystème, un écosystème très riche en biodiversité et aussi la possibilité de se nourrir, la possibilité de se vêtir, la possibilité d'être éclairé, d'avoir des énergies. Mais sauf que quand vous êtes dans une zone où l'hostilité forestière amène chacun à se débrouiller, chacun va essayer de s'adapter à cet environnement. Et l'Afrique, c'est aussi l'un des continents les plus sous-développés, où les problèmes de l'eau, les problèmes d'énergie et les problèmes alimentaires se posent tous les jours. Quand vous êtes dans cette situation, vous êtes obligé de vous débrouiller parce que les États sont extrêmement faibles pour subvenir aux besoins de ces populations. Donc, pour chaque situation, les populations s'adaptent. Et le vrai problème climatique que nous avons en Afrique, c'est un problème de population qui s'adapte à l'environnement et l'environnement toujours hostile. Voilà un peu ces défis.
Tout à fait. Et aujourd'hui encore, du fait, vous l'avez souligné quand même, que 90% de la population mondiale se situant sous le seuil d'extrême pauvreté vivra en Afrique subsaharienne à l'horizon 2030. Quels sont alors les enjeux sociaux en Afrique?
Les enjeux sociaux, c'est d'abord, il faut se nourrir. Il faut se nourrir, ça c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, il faut absolument trouver du travail. Il faut créer de l'emploi pour toute cette jeunesse qui, le plus souvent, est analphabète et qui doit mener des activités pour survivre. Je parle de survivre parce que dans certaines zones africaines, on survit, on ne vit pas. Et l'autre enjeu, c'est l'enjeu démographique. Il est de manière triviale dit clairement qu'une population très pauvre est une population aussi qui se reproduit facilement parce que l'oisivité fait en sorte que la reproduction est devenue l'un des sports les plus pratiqués. Donc vous avez ces trois enjeux, surtout l'enjeu démographique. Est-ce qu'un continent surpeuplé avec très peu de moyens de subsistance peut survivre dans une situation climatique ou bien on va se retrouver dans une sorte de cacophonie? Je pense qu'il faut résoudre, il faut trouver des solutions à tous ces problèmes. Et j'aimerais dire une chose, l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est un continent extrêmement riche, riche en matières premières. Mais si les Africains eux-mêmes ne sont pas en mesure, n'ont pas les moyens de transformer ces ressources naturelles pour en faire une richesse, et par conséquent, l'Afrique est pauvre avec toutes ses richesses.
Tout à fait.
Donc il faut sortir un peu de cette perception d'Afrique riche, mais pauvre.
Vous venez de le dire, le continent dispose pourtant de plusieurs sources d'énergie primaire abondantes et renouvelables. Pour un développement durable, le continent dépend encore à 40% de la bioénergie, dont le charbon de bois, pour son énergie primaire. Comment espérer alors sortir de cette situation?
Je pense qu'il va falloir que les Africains prennent leurs responsabilités. Et moi, j'ai l'habitude de dire que les dirigeants africains sont devenus des grands mendiants de la planète. On ne peut pas avoir autant de moyens et continuer à tendre la main. Le problème de l'Afrique, la pauvreté de l'Afrique ne réside pas dans le manque de moyens. La pauvreté de l'Afrique réside dans le manque de vision des dirigeants africains. C'est de l'égoïsme, je le dis, contrairement à ce que certains pensent. En termes d'énergie, il y a du soleil en Afrique. En termes d'énergie, vous avez de l'eau pour l'énergie hydraulique. En termes d'énergie, vous avez beaucoup de vent. En termes d'énergie, vous avez même de la biodiversité qui peut créer beaucoup plus d'énergie. Mais est-ce qu'on utilise ces moyens naturels pour faire en sorte que l'Afrique soit un continent beaucoup plus couvert en énergie? Non. Mais non, qu'est-ce qu'on fait de notre soleil? Et pourtant, nous n'avons plus rien à inventer. Tout a été créé, tout a été inventé. Il faut tout simplement adapter ce qui existe chez les autres en Afrique. Mais malheureusement, même cette adaptation n'arrive pas à le faire. Donc les défis sont d'abord les défis en termes de vision. Quelle est la vision de l'Afrique par rapport à son continent et par rapport à ses populations? Quand je dis l'Afrique, je parle des dirigeants. Est-ce qu'il y a une vision? Je ne pense pas.
Tout à fait. Et concernant la planification urbaine et l'aménagement du territoire, encore lacunaires qui ont été identifiés comme des politiques essentielles dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, est-ce véritablement la solution selon vous?
Écoutez, l'urbanisation de l'Afrique est en train de se faire dans un désordre terrible parce que si on ramène en milieu urbain les mêmes habitudes qu'en milieu rural, vous allez vous rendre compte que on crée du désordre. On crée du désordre, il n'y a pas d'urbanisation, il n'y a pas de planification. Et par conséquent, le citoyen qui vit au village ramène les mêmes habitudes dans la ville. Et du coup, si les autorités municipales n'ont pas une planification, on va retrouver les mêmes comportements au village qu'en ville. Donc, il appartient aux Africains de faire le choix entre la vie rurale qui n'a rien à voir avec la vie urbaine, essayer de planifier. C'est-à-dire, vous savez, on ne peut pas piloter un pays, on ne peut pas diriger des hommes sans pour autant être rigoureux sur le respect des dispositions. Il faut d'abord prendre les dispositions qui s'imposent pour la ville, il faut des villes modernes. Il y a une différence entre une campagne et une ville. Il faut absolument que des mentalités s'améliorent pour que les populations rurales puissent s'adapter à l'environnement urbain, ce qui n'est pas facile aujourd'hui.
On parle également d'un continent, pour parler de l'Afrique bien sûr, qui a développé depuis une dizaine d'années une véritable diplomatie climatique panafricaine. A-t-elle porté ses fruits?
Est-ce qu'elle a porté ses fruits? Oui et non. Oui, parce que vous avez certaines zones, comme je suis du Gabon, vous avez des efforts qui ont été consentis pour la création des parcs nationaux, pour développer un certain tourisme. Et vous avez aussi des zones où ces efforts n'ont pas apporté grand-chose. Hein. Je pense qu'il va falloir que dans chaque région d'Afrique, que les autorités, par rapport à l'existant, puissent avoir, encore une fois, je vais utiliser le terme de vision, pour que les efforts consentis au niveau international se reflètent au niveau national. Et quand je parle national, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie des populations. Tout ce qu'on est en train de dire vise à améliorer les conditions des populations locales. On ne peut pas parler de conservation, on ne peut pas parler de tourisme sans mettre l'homme au cœur de la stratégie. Mais le plus souvent en Afrique, l'homme n'est pas au cœur de toutes les planifications. On voudrait tout simplement adapter à l'Afrique les concepts vus d'ailleurs, mais qui ne s'adaptent pas à l'homme africain.
Enfin, quelle différence selon vous, ou quels différents outils qui peuvent ainsi être mobilisés pour l'atteinte donc de ces durabilités espérées en Afrique?
Ben, les outils sont fermes, hein, sont très simples. C'est la législation. Il faut que la législation africaine s'adapte à cette nouvelle réalité. On ne peut pas construire sans pour autant prendre des textes, sans pour autant les appliquer aux citoyens. Et c'est ça aussi le véritable problème en Afrique. Nous avons suffisamment de textes, nous avons suffisamment de conventions internationales que nous signons, mais on n'arrive pas à les adapter, parce que l'impunité est toujours présente.
Merci encore Marc Ona. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de Brainforest et troisième vice-président du Sénat de la transition au Gabon. Et vous répondiez bien entendu à nos questions concernant le climat et aussi également la situation en Afrique. Merci encore d'avoir répondu présent.
C'est moi qui vous remercie.
Et merci également à vous, chers amis, de votre durabilité concernant la fidélité que vous nous accordez. Rendez-vous est pris pour votre prochain numéro